14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Delphine, ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe quelle maman. Du jour au lendemain, qui peut disparaître.
On veut la vérité. On est épuisé. C'est des cauchemars nuit et jour. Donc imaginez deux enfants qui n'ont plus leur maman.
Que ceux qui savent disent. Parle. Il est temps. Pour le bien des enfants, pour le bien de la famille. On ne peut pas rester comme ça.
Bonjour. À quoi joue Cédric Jubilard? Et s'il s'agit d'un jeu, est-il destiné à brouiller les pistes et à semer le doute? Depuis 13 mois, c'est lui et lui seul qui est devenu le maître de l'enquête sur la disparition de son épouse, Delphine. C'était dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 dans le village de Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Et depuis cette date, aucune trace de la jeune femme n'a pu être retrouvée. Au fil des mois, Cédric Jubilard, témoin numéro 1 puis suspect numéro 1, est devenu aux yeux des enquêteurs la seule personne capable de pouvoir déverrouiller l'enquête et pouvoir les conduire à la disparue. Rarement un suspect n'aura été autant épié, suivi, surveillé. La moindre de ses paroles serait en mesure de donner la plus précieuse des indications. Ce face-à-face va-t-il porter ses fruits? Les enquêteurs abattent-ils leur dernière carte? Et s'il s'était trompé de coupable? Question posée aujourd'hui à nos invités et acteurs de cette histoire.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, le mystère Cédric Jubilard. Depuis plus d'un an, cet homme de 35 ans est au centre d'une gigantesque enquête ouverte après la disparition de son épouse Delphine, introuvable malgré d'incessantes recherches. Ce lundi 17 janvier 2022, les gendarmes sont à nouveau à pied d'œuvre dans la campagne de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Depuis trois mois, ils ratissent ce coin planté d'arbres et d'arbustes, succession de talus et de petits fossés propices à des cachettes. Ce jour-là, les enquêteurs sont appuyés par des militaires du 17e régiment parachutiste de Montauban, une quinzaine d'hommes des fosses, les fouilles opérationnelles spécialisées, des soldats qui agissent généralement sur les terrains de guerre, experts dans la découverte d'indices et de cadavres, dans des décors toujours très difficiles d'accès.
Dans ces zones très boisées, la difficulté c'est d'être très minutieux. Un travail au GPS, donc il y a un quadrillage très précis de la zone à respecter très scrupuleusement pour ne pas passer à côté du moindre centimètre carré de terrain. Mais en tout cas c'est un travail compliqué, fastidieux.
La ferme de Drignac, à environ 2 km de la maison des Jubilards, un ensemble de maisons, est inspectée en priorité. La ferme a déjà été visitée à deux reprises par les enquêteurs, sans résultat. Cette nouvelle journée de fouilles s'avère infructueuse. Dans les jours suivants, gendarmes et militaires se déplacent en contrebas de la bâtisse, route de Millard. Un vallon est inspecté, des arbustes tronçonnés, la végétation nettoyée. Un radar capable de sonder le béton et des détecteurs de métaux sont employés. Les 120 militaires et gendarmes ne vont rien découvrir, aucune trace de Delphine. Si les enquêteurs s'intéressent autant à la ferme de Drignac, c'est que celle-ci apparaît à l'épicentre de la disparition. C'est Cédric Jubilard en personne qui a désigné ce lieu rapidement accessible depuis son domicile de Cagnac-les-Mines. Il a évoqué une première fois la ferme qui a brûlé auprès de Séverine, sa nouvelle petite amie, peu avant le 18 juin 2021, date de sa mise en examen. La maison en question, abritant à une époque des voitures de collection, avait effectivement été frappée par un incendie. Placé à l'isolement, l'artisan plaquiste a réitéré ses propos auprès de Marco, un co-détenu habitué au séjour en prison. Les prisonniers échangeaient des messages par les fenêtres de leur cellule mitoyenne. Cédric Jubilard a raconté qu'il avait tué Delphine après l'avoir surprise en train d'envoyer des textos à son amant. Il précise qu'il a enterré le corps à la ferme qui a brûlé. Le dénommé Marco va se confier à l'administration pénitentiaire, sorti de prison au mois d'octobre. Il va même aller sur place, à la ferme de Cagnac, et prendre contact avec la petite amie Séverine. C'est ce ménage et ces révélations qui intriguent depuis des semaines les gendarmes et les juges d'instruction. Des confidences suffisantes pour entretenir tous les doutes et l'espoir de retrouver Delphine. Mais Cédric Jubilard va revenir sur ces révélations et prendre un virage à 360 degrés. Dans deux lettres adressées début janvier à sa compagne Séverine, il indique qu'il a raconté des conneries. « J'ai rapporté n'importe quoi à n'importe qui. Maintenant, plus de blablotage avec personne, je te promets », indique le détenu dans ses courriers révélés par le journal La Dépêche du Midi. Cédric Jubilard s'excuse d'avoir causé des ennuis à Séverine, un temps placé en garde à vue. Marco Le codétenu fait partie des personnes qui m'ont baisé avec de faux témoignages. Voilà pourquoi tu as été en garde à vue. On ne peut avoir confiance en personne. J'ai bien compris que je me suis fait baiser en beauté. Si tu veux bien accepter mes excuses. Cédric Jubilard serait-il un homme qui joue avec tout le monde, comme l'estiment certains acteurs du dossier? Le fait est que depuis plus d'un an, les enquêteurs n'ont pas pu le confronter à des témoignages capitaux ou des indices sérieux. Faute d'éléments capitaux, les deux juges d'instruction de Toulouse, Audrey Asma et Coraline Chartier, n'ont d'autre choix que de s'accrocher à quelques détails qui pourraient faire la différence. Ces derniers jours, les enquêteurs et notamment les experts en comportement de la gendarmerie ont repassé en revue les déclarations et les gestes de Cédric Jubilard dans les heures suivant la disparition. Selon eux, la clé de la vérité se cache dans le déroulé de ces heures cruciales. Lors de ces auditions, l'artisan plaquiste a toujours répété qu'il s'était mis au lit vers 22h30 ou 23h, il a commencé à jouer à Game of Thrones sur son portable avant que l'appareil, faute de batterie, ne se déconnecte. Il se serait endormi, laissant le téléphone en charge, puis le rallumant à 3h53 du matin. C'est à ce moment-là qu'il se serait aperçu de la disparition de Delphine. Les enquêteurs vont s'attacher à trouver toutes les failles possibles, les incohérences pouvant apparaître dans cet emploi du temps. Une expertise menée par l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie a ainsi porté sur le téléphone. Les experts ont été surpris de constater que le portable n'affichait à 4h12 du matin, au moment donc où Cédric Jubilard affirme l'avoir rallumé, qu'un niveau de charge de 33%, un pourcentage incompatible pour un appareil branché depuis au moins 3 heures. Cédric Jubilard, ainsi que l'avait révélé le journal Le Parisien, aurait encore omis de déclarer qu'il avait fait une balade en solitaire autour de la maison de Cagnac aux alentours de 22h. Une voisine affirme l'avoir croisé dans ce créneau horaire. Il marchait seul en direction du terrain de boule et aurait baissé la tête en apercevant cette femme. Les experts ont encore beaucoup cogité sur l'attitude prêtant à confusion de Cédric Jubilard. Juste après qu'il eut alerté les autorités sur la disparition de Delphine, mercredi 16 décembre, autour de 5h du matin, il indique ainsi aux tout premiers enquêteurs « Qu'est-ce que je vais faire maintenant qu'elle n'est plus là ?» À sa mère, qui arrive vers 8h30, il confie « J'ai perdu ma femme », des phrases considérées comme définitives par les spécialistes du comportement, des espèces d'aveux qui indiqueraient que Cédric Jubilard aurait fait le deuil de cette épouse qui allait le quitter. Les gendarmes ont enfin noté que le soir de la disparition, contre toute attente, le mari n'est pas allé dormir dans la maison de Cagnac où il aurait pu avoir espoir de voir réapparaître Delphine. Il a préféré passer la nuit avec ses enfants chez sa mère, une attitude déroutante pour ses accusateurs. Lors de sa mise en examen pour homicide sur conjoint, le procureur Dominique Alzéari avait décrit un homme en constante contradiction avec lui-même. Bon courage pour comprendre ce qu'il dit, soit tout et son contraire. Personne, dans tous les cas de figure, n'a aperçu Delphine Jubilard dans la nuit de sa disparition, hormis bien sûr les occupants de la maison de Cagnac, le mari évidemment, et puis les deux enfants du couple. Les enquêteurs et les juges s'intéressent de près aux déclarations et aux mots prononcés par le fils du couple, Louis, 6 ans et demi au moment de la disparition de sa mère. Il se trouvait dans la maison ce soir-là, tout comme sa sœur Elia, 18 mois, bien trop petite pour pouvoir raconter quoi que ce soit. Louis va être entendu à 3 reprises avec un luxe de précaution dans le cadre d'une procédure encadrée. Les auditions sont conduites par un gendarme spécialement formé à ce genre de face-à-face, le tout se déroulant dans un local neutre. Entretien enregistré, filmé, l'enfant va légèrement évoluer dans ses déclarations. Lors du premier entretien, il se souvient que la soirée du 15 décembre s'est bien déroulée. Papa et maman ne s'étaient pas disputés, ils parlaient bien. Après, on a mangé, on a regardé la finale de Un incroyable talent où ils choisissent le vainqueur. Après, je suis allé au lit. Ils n'ont pas crié parce que je les entendais. 20 janvier puis 26 novembre 2021, Louis est respectivement réentendu par les gendarmes puis par les juges d'instruction. Le petit garçon est plus détendu, plus bavard que lors de la première audition. Il répète qu'il est allé se coucher après avoir regardé la télé avec sa mère. Il ne se souvient pas comment celle-ci était habillée. en combi short de nuit, comme sur la dernière photo qu'elle a adressée à son amant, ou bien peut-être avec un pull rouge, comme croit le penser l'enfant, un vêtement qui n'a jamais été retrouvé. Louis, cette fois, indique que papa était avec maman, ils se sont parlé, ils se sont disputés, ils ont dit qu'ils allaient se séparer. Le garçon ne fait pas état de bruit ou de cris. Une témoin, une voisine, certifie, elle, avoir entendu des cris stridents, des cris glaçants dans le quartier du lotissement de Cagnac, à 130 mètres de la maison des Jubilards. Une scène qui aurait duré entre 5 et 10 minutes. Les seuls cris d'une femme, aucune voix d'homme, ainsi que des aboiements de chiens. Cette voisine a alors été rejointe par sa fille de 10 ans qui a confirmé avoir elle aussi entendu ces cris qui lui ont fait peur. Témoignage accablant pour les enquêteurs, mais témoignage très contesté par les avocats de Cédric Jubilard. Delphine et Cédric, un couple qui bat de l'aile et ne s'entend plus, au bord de la rupture, l'exaspération et l'humiliation de se retrouver seul à se débrouiller, aurait-elle conduit le mari à passer à l'acte ? C'est le sentiment des enquêteurs. Dans les mois précédant la disparition de Delphine, le mari se serait focalisé sur les faits et gestes, les rendez-vous et les rencontres d'une épouse qu'il était en train de perdre. Il se serait lancé dans une recherche active et frénétique pour établir les activités extra-conjugales de sa femme. Il savait qu'elle avait un amant, même s'il a dans un premier temps déclaré qu'il l'ignorait. Les 2 et 6 décembre 2020, une dizaine de jours avant la disparition, le mari a consulté les comptes bancaires de Delphine. Il a remarqué sur ses relevés de comptes des dépenses de lingerie ainsi que des nuitées d'hôtel. Il aurait alors été gagné par une grande colère au point de proférer des menaces de mort à l'encontre de Delphine. Est-ce parce qu'elle ne supportait pas la curiosité intrusive de Cédric que Delphine, le 15 décembre, au matin de sa disparition, s'est rendue à Albi pour faire notamment changer les codes de ses comptes bancaires? Une opération qui aurait pu priver Cédric de pouvoir disposer de l'argent de son épouse. Celui-ci, gros consommateur de cannabis, avait pour habitude de puiser un peu d'argent dans le livret des enfants. Il lui arrivait de demander également de l'argent à son épouse. De juin à décembre 2020, Cédric Jubilard a ainsi emprunté 945 euros à Delphine. Selon ses avocats, il aurait toujours mis un point d'honneur à rembourser ses dettes. Maître Alexandre Martin précise qu'il a restitué plus de 1700 euros à son épouse. La nouvelle du blocage des comptes aurait pu agir comme un détonateur et provoquer un geste fou chez Cédric Jubilard. Le mobile, selon certains enquêteurs, le mobile est financier et il est tout trouvé. Pas de preuves, mais les gendarmes et les juges vont tout faire pour empêcher Cédric Jubilard de sortir de prison. Le mari de Delphine, qui supporte mal la détention, va devoir bientôt à nouveau affronter les juges. Vendredi 14 janvier 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse rejette la troisième demande de mise en liberté de Cédric Jubilard. Les juges craignent qu'il fasse disparaître des preuves s'il devait sortir de prison. Ses avocats estiment que cette détention provisoire ne se justifie pas. Ils font savoir qu'il n'existe aucune preuve dans ce dossier, même si les enquêteurs et les juges d'instruction s'appuient sur un faisceau de présomptions graves et concordantes. Le 11 février, Cédric Jubilard sera à nouveau entendu par les juges de Toulouse. Le mari devrait être réinterrogé une énième fois sur son emploi du temps dans les heures précédant la disparition. Les juges privilégient toujours la thèse d'une violente dispute sur fond de séparation annoncée du couple, dispute qui aurait dégénéré en coup violent. Reste toujours à savoir comment, en un temps record et sans se faire remarquer, le mari aurait pu se débarrasser du corps de sa femme.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.